Sacks waiting on deck, but the game right now is at the plate. High fly ball into right field. She is gone! In a year that has been so improbable, the impossible has happened.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans En Toute Franchise, la série de podcasts qui vous emmène à la découverte des 30 franchises de MLB. Après une longue hibernation, nous sommes enfin de retour pour continuer notre magnifique voyage au cœur de l'histoire de la Grande Ligue et des équipes qui la composent. Et pour fêter notre comeback, nous vous proposons un périple XXL puisque nous nous rendons dans l'état où tout est plus grand, le Texas. En effet, aujourd'hui, nous prenons la route d'Arlington située entre Fort Worth et Dallas pour parler de la franchise des Rangers. Mais avant d'arriver dans le Texas, la franchise a d'abord vu le jour du côté de Washington en 1961 et portait le nom alors des Senators. Mais très vite, la franchise a fait cap à l'ouest pour poser ses valises à quelques encablures de Dallas à partir de 1972. Malheureusement pour les fans texans, la franchise va avoir du mal à exister sportivement. Elle est même considérée comme l'une des franchises les plus perdantes de tous les sports américains, puisqu'elle ne compte que 8 participations aux playoffs, dont 2 défaites en World Series lors de 2 saisons consécutives. Depuis 2016, date de sa dernière qualification en post-season, l'équipe a du mal à exister et végète dans les bas-fonds de l'American League. Néanmoins, depuis l'ouverture de son nouvel écrin en 2020, la franchise a renoué avec des ambitions, celle d'enfin débloquer son compteur de titres. Et pour parler avec nous des Rangers, j'accueille aujourd'hui Marion. Salut Marion, comment ça va? Ravi de te retrouver.
Salut Martin, écoute, ça va très bien, plaisir partagé. Et on sent le début de saison arriver tout doucement. On se remet dans les recherches, dans l'écriture, dans les papiers. Donc, c'est bon signe.
Exactement. Et puis, en plus, on tombe sur une franchise qui a de grandes ambitions, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, elle va être un peu dans le cœur de l'actualité.
Exactement, on va voir que nos Rangers ont enfin envie d'écrire leur nom au palmarès.
C'est ça. Alors, habillez-vous de votre meilleur chapeau de cow-boy, enfourchez votre canasson préféré, car aujourd'hui, nous partons dans un univers impitoyable, celui de la franchise des Texas Rangers. Nous sommes donc en 1961, le Texas est encore vierge de toute équipe de MLB et alors que la Ligue majeure continue son expansion vers l'ouest, les rumeurs vont bon train concernant l'arrivée d'une franchise du côté du plus grand état des États-Unis. Eh bien non, c'est finalement du côté de Washington que la franchise des Rangers va voir le jour. Ce sera une naissance de triplé puisque lors de cette expansion, les Angels seront également créés, ainsi qu'une franchise qui sera octroyée à Minnesota. C'est d'ailleurs en partie à cause de cette dernière que les Rangers sont nés. En effet, Washington possédait l'équipe des Senators, mais celle-ci a été envoyée du côté de Minneapolis sur la volonté de son propriétaire, Calvin Griffiths. Le nom des Senators a alors été changé pour Twins lors de ce transfert, et Marion, c'est ce qui a forcé la ville de Washington à recréer une franchise du début, ou presque.
Oui, exactement. C'est une histoire un peu particulière. On en avait parlé quand on avait parlé des Nationals hein, ensemble. Donc, on avait déjà évoqué cette histoire un petit peu particulière de ces franchises de Washington, de ces Senators nés, puis disparus, puis renés, puis déménagés. Et donc, ces fameux Senators qui reviennent dans les années 60, 61 précisément, le first pitch comme un symbole qui est lancé par le président John Kennedy au Griffith Stadium de Washington. Alors, ces nouveaux Senators, c'est bien, Washington est content de retrouver son équipe, mais finalement, ils vont durer très, très peu de temps. Hein. C'est 10 ans, 10 saisons simplement, ces Senators, avec pas beaucoup de réussite, pas beaucoup de supporters, malheureusement. Il y a quand même entre-temps un changement de stade. Hein. Donc, je disais Griffith Stadium pour les tout débuts, mais l'équipe va déménager. Dans un premier temps, ce nouveau stade va s'appeler le DC Stadium. Il sera renommé Robert Kennedy Memorial Stadium en 1969, mais on entend déjà des rumeurs donc à la fin de ces années 60 sur les envies, les ambitions des Texans. Et ils vont pas faire le poids nos Senators. Et du coup, comme je le disais, dès 1971, c'est déjà la dernière saison pour ces Senators, avec une fin de vie un peu particulière, ce dernier match face aux Yankees qui est arrêté après l'envahissement du stade par les spectateurs. Donc ce dernier match des Washington Senators n'ira même pas jusqu'à son terme. Donc c'était, comme je disais, voilà, une très très courte renaissance des Washington Senators et direction donc le Texas.
Effectivement, tu l'as dit, la franchise pose ses valises dans le Texas en 1972. Pourtant, malgré ce changement d'air complet, la franchise, elle, ne parvient pas à décoller. Il faut dire que l'équipe a du mal à attirer des supporters entre le marasme sportif et les conditions climatiques. Difficile d'être attractif. En effet, avant l'arrivée des Marlins, on considérait que l'Arlington Stadium était l'enceinte avec la température les plus élevées de la MLB. En rajoutant à ça l'humidité qu'il peut y avoir dans le Texas, on comprend mieux pourquoi c'était difficile d'attirer un peu des supporters. C'est d'ailleurs aussi pour ça, en partie, que la franchise s'est mise à disputer des rencontres le week-end entre mai et septembre durant la soirée. Une tradition qui s'est perpétuée jusqu'à l'ouverture du nouveau stade en 2020. Cette pratique a aussi permis à la franchise d'être plutôt bien représentée lors des diffusions par ESPN. Ça tombe bien, Marion, nous sommes dans les années 80, l'équipe commence enfin à sortir la tête de l'eau au niveau sportif. Et cerise sur le gâteau, en 1988, la franchise parvient à recruter l'un, si ce n'est le meilleur lanceur de l'histoire du baseball et peut-être l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du baseball, un certain Nolan Ryan.
Effectivement, en fait, on peut dire que les vrais débuts finalement des Texas Rangers sur la carte de la MLB, c'est l'arrivée de Nolan Ryan, hein, puisque tu l'as dit, la décennie des années 70, bah, comme souvent, hein, j'allais dire malheureusement, dans les nouveaux
on a fait vite pour l'installation.
Bah oui, il y a pas grand chose à dire. C'est toujours très compliqué de toute façon de partir. Alors pas tout à fait de zéro, hein, puisqu'on l'a dit, il y avait une base, il y avait les Senators, mais donc les débuts sont très balbutiants. Et c'est vrai que cette arrivée de Nolan Ryan, alors il n'est pas tout jeune quand il arrive aux Rangers, il a déjà, si mes notes sont bonnes, c'est 41 ans hein, déjà c'est quand ça, il ouais. arrive aux Rangers. Donc déjà Nolan Ryan, un pitcher, on connaît son niveau bien sûr, et il arrive et il fait, voilà ce que je disais, il met les Rangers sur la carte et il va signer les premiers records, en tout cas les premiers milestones pour cette franchise. Hein. Il va arriver, c'est sous le maillot des Rangers qu'il va passer la fameuse barre des 5000 strikeouts en carrière. Il va également signer ses 6e et 7e no-hitter en carrière sous ce maillot des Rangers. Le 7e no-hitter, il arrive en 91. Il a 44 ans, notre ami Nolan Ryan, mais il peut encore lancer a priori. Et dans la foulée un petit peu de cette, alors j'allais dire, renaissance, alors c'est pas encore collectivement une grande réussite. Mais au moins, il y a des noms, il attire beaucoup de monde. Et là, on se dit quand même, il faut peut-être envisager de faire un stade un peu digne de
son nom. Quoi.
Voilà, digne de ce nom. Et donc, dans les années, au tout début des années 90, les travaux commencent pour avoir un tout nouveau stade flambant neuf et accompagner voilà, cette réussite de Nolan Ryan. Mais malgré ce nom, eh ben, il n'y a toujours pas, dans les années 80 et 90, on attend encore les playoffs, quoi.
Effectivement, pourtant, il y a des noms plutôt connus de la MLB qui vont passer dans cette équipe des Rangers. Je pense à Rafael Palmeiro, par exemple. Bobby Witt, Marion, ça va te faire plaisir, toi qui adores le petit fiston qui joue désormais de côté de Kansas City. Le Padre est passé par les Rangers. Et il y a également Kevin Brown, également un grand lanceur. Donc, il y a quand même des grands noms. Mais même malgré leur présence et celle du Hall of Famer, notre ami Nolan Ryan, tu l'as dit, il faut encore patienter avant de voir ces Rangers être, j'ai envie de dire, performants et de trouver surtout les playoffs, quoi.
Ouais, exactement. Donc, il y a le déménagement. Donc, en 1994, c'est le déménagement dans le nouveau stade, hein, The Ballpark in Arlington, officiellement, hein, son nom. Et là, bah, finalement, en 94, c'est peut-être le début de quelque chose parce que c'est pas anecdotique, il y en a eu très peu dans l'histoire. Il y a le premier Perfect Game, par exemple, des Rangers, qui est signé de Kenny Rogers à la maison. Donc, ça permet
de bien lancer, quoi.
Voilà. Et l'année suivante, il y a l'All-Star Game qui est joué dans ce même stade. Donc voilà, ça commence un petit peu à prendre. Alors on a la retraite bien sûr de Nolan Ryan. Alors il y a la cérémonie de retrait du maillot. Ça aussi, ça sera un grand moment. Hein. Ces premières années au ballpark d'Arlington, il y a quand même des belles choses. Et enfin, on arrive à cette année 1996. Hein, et on rappelle que
elle est arrivée en 1971.
Hein, donc c'est vieux, mais enfin ses premiers playoffs avec ce titre en American League West qui est décroché. première qualification en play-off et puis une première, un premier match remporté contre les Yankees. On sait que 96, c'est un peu une période un petit peu, comment dirais-je, dominée par les Yankees, mais quand même, les Rangers vont arracher leur première victoire en play-off contre les Yankees, donc c'est plutôt pas mal. Mais finalement, ils vont
s'incliner. Hein,
non, ça suffira pas 96. Je pense qu'il en fallait beaucoup plus pour dominer les Yankees. Mais quand même, voilà, c'est finalement ces années 90 qui vont permettre déjà voilà un beau grand stade et des premiers événements un peu sympas et surtout ces premiers play-offs. Tu l'as dit, il y avait pas mal de noms qui se sont succédés sous ce maillot, mais il a donc fallu attendre 25 ans après la naissance des Rangers pour s'installer en play-off. On le verra, il n'y en a pas eu tant que ça, donc il faut savourer la première.
Je l'ai dit en introduction, il n'y en a eu que 8 au final de participation en play-off. Ouais. Donc c'est pour ça que les Rangers sont un peu considérés comme une équipe un peu de loser, malheureusement, pour nos amis fans des Rangers. J'en profite également.
Malheureusement, oui, il y aura un deuxième qui va s'enchaîner. 98, bon, 98 non plus, il ne fallait pas prendre les New York Yankees en play-off. Hein, donc voilà, donc il y a eu 96 et 98. Pour ces playoffs et il y aura même 99. Bon ben voilà, mais ils ont collé malheureusement à la super team des Yankees. Donc là aussi, pareil, en fait, ils sont à chaque fois éliminés pour ces premiers playoffs par les Yankees. Les Yankees, Jeter, Rivera, Co. Ouais. Donc voilà, impossible de passer, mais au moins il y a ces playoffs.
Déjà un peu de bonheur pour ces fans des Rangers. Voilà, juste avant d'enchaîner sur les années 2000. Marion, je vous avais aussi de dire que durant ces années 80, fin des années 80, début des années 90, il y a notamment George Bush et George W. Bush qui prend les rênes, j'ai envie de dire, de cette franchise des Rangers entre 89 et 94, où notre ami Bush deviendra gouverneur du Texas et donc sera obligé de quitter ses fonctions. Mais voilà, Bush. Junior, j'ai envie de dire, était très intéressé par le baseball et cette franchise des Rangers notamment. Et donc, il a eu pendant quelques années une petite position dominante sur cette franchise. Et on l'a vu avec autant de réussite que d'autres sujets.
Exactement. Il était souvent au stade. Hein. Ce sont des images qui ont pas mal tourné. C'était pas un propriétaire, j'allais dire, juste pour le nom. Il était bien investi et puis c'était allié avec forcément Texas, qui dit Texas dit pétrole, dit argent. Donc il était avec tous ses copains pétroliers du Texas et il allait régulièrement, on le voyait derrière le marbre. Effectivement, très souvent. Ouais.
Tandis que son père, George Bush Senior, était lui plus un fan de Houston et on le voyait souvent, on le voit d'ailleurs souvent aller du côté des matchs des Astros. Voilà, donc une petite rivalité père-fils aussi.
C'est pas toujours mal, simple. Ça.
Les dîners de famille, ça devait être assez agité. Tu l'as dit, Marion, on se retrouve donc en 99 après deux éliminations frustrantes, j'ai envie de dire, où tu as fait sweep par deux fois par les Yankees. Et là, il y a un nouveau propriétaire qui s'empare de la franchise, Tom Venture, qui a racheté les Rangers pour 250 millions de dollars. Et il nourrit de très grandes ambitions et entend capitaliser sur les récentes performances de ces Rangers pour une fois. Et c'est ainsi qu'en 2001, la franchise texane pousse les portes du saloon de façon autoritaire en s'offrant les services de la superstar Alex Rodriguez. À l'époque, il signe le plus gros contrat de l'histoire de la MLB avec 252 millions de dollars sur 10 ans. D'ailleurs, pour vous montrer l'importance et l'impact de ce contrat, à l'heure actuelle, il est toujours classé comme le 16e plus gros contrat de l'histoire alors que nous sommes en 2023. Et Marion, là aussi, j'ai envie de dire, un peu comme le destin de Nolan Ryan, malgré des performances exceptionnelles sur le terrain, Arod ne parvient pas à porter ses Rangers sur le devant de la scène.
Ouais, c'est un peu l'histoire éternelle d'Arod, quoi. Il a signé son méga contrat et derrière, alors il y a certes des performances individuelles, mais malheureusement, il n'y a rien de collectif, hein, si tu l'as dit, hein, mais le plus gros contrat de l'histoire. Donc, il y avait quand même un certain poids sur ses épaules. Il n'a pas réussi à assumer ça. J'oserais rajouter que c'était pas la première fois. Enfin, ça ne sera pas la dernière fois, plutôt, pardon.
Oui.
Donc oui, malgré aussi l'arrivée en tant que manager de Buck Showalter, hein, un vétéran. Alors, en plus vétéran, bien sûr, aujourd'hui, c'est un nom qu'on a toujours, bien sûr, avec nous encore en 2023, Buck Showalter, mais il n'arrive pas à créer une osmose collective. Et c'est vraiment de multiples récompenses individuelles hein, à partir de ces années 2000, parce qu'il y a des jolis noms hein, qui résonnent pas mal. On a bien sûr, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais Michael Young qui sera qui est l'une des figures historiques de
cette franchise,
de ce club, hein, qui a multiples Gold Glove, multiples Slugger Awards. Il y a Mark Teixeira qui va arriver aussi. Donc, ils vont accumuler individuellement des récompenses, mais il n'y a pas de résultat collectif. Et l'expérience Erod, avec son contrat de 10 ans, eh ben, elle va s'arrêter bien avant. Elle va tourner court, effectivement, tu l'as dit, puisque c'est déjà en février 2004, donc il va jouer... trois saisons simplement que Bud Selig, le commissionnaire de l'époque, approuve, puisque avec un tel trade, il fallait l'accord de Bud Selig, il fallait donc son accord pour le trade d'Alex Rodriguez, déjà qui quitte les Rangers direction les Yankees, contre un jeune et prometteur infielder qui s'appelle Alfonso Soriano. Et finalement, Alfonso Soriano, c'est peut-être lui qui va avoir les meilleures performances par rapport à Erod, alors que le tournoi de contrat... et pas du tout, enfin les espoirs, les ambitions n'étaient pas du tout les mêmes. Et c'est ce Soriano finalement qui, dès 2004, donc ça, sa première année avec les Rangers, il va être nommé MVP du All-Star Game, ce qui est assez rigolo, quoi, quand on sait comment il est arrivé. Et cette équipe des Rangers, je disais, voilà, qui accumule les récompenses individuelles, ils ont quand même 5 joueurs All-Star Game hein, sur cette année 2004. Donc ils ont plus Erod hein, qui est parti.
C'est ça qui est fou, c'est joueurs. Une fois que Erod est parti, j'ai envie de dire ce corps de jeunes joueurs à l'époque en tout cas prend les choses en main et décide de hausser le ton, j'ai envie de dire, et forme plutôt un midfield plutôt très très prometteur avec comme tu l'as dit, Mark Teixeira, Alfonso Soriano et Michael Young notamment hein. Et tu l'as dit, Soriano sera même élu All-Star du MVP cette année 2004.
Ouais exactement, il va avoir des récompenses. Il y a notre ami Showalter, le manager, qui est nommé coach de l'année en 2004 aussi. Donc, ça prouve qu'il y avait vraiment qu'il a réussi à construire quelque chose avec ses jeunes joueurs. Et après le départ, finalement, d'Alex Rodriguez, donc cette fameuse année 2004, il termine qu'avec 89 victoires. Donc,
c'est ça qui est fou, c'est qu'il y a beaucoup de récompenses individuelles, mais au final, le résultat sportif n'est pas si important, même si au niveau comptable, ils sont que 3 victoires hein, du titre de division. Mais voilà, à l'époque, il y a d'autres équipes un peu plus costauds du côté de cette AL West. On pense notamment aux Angels ou même aux Athletics. Et donc, c'est encore un peu court pour ces jeunes pousses, j'ai envie de dire, des Rangers. Mais au moins, on n'est plus, j'ai envie de dire, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, dans cette franchise des Rangers, loser, mais vrai loser, c'est-à-dire qu'ils perdent beaucoup de matchs. Là, c'est une équipe qui perd beaucoup, mais qui parvient à gagner, mais qui est intéressante pour les fans, quoi.
Ouais, exactement. C'est une équipe vraiment spectaculaire hein, qui, donc on l'a dit, malgré le départ d'Erod, qui frappe énormément de home runs. Hein, les infielders dont on parlait, c'est plus de 20 home runs chacun sur cette saison 2004. En 2005, pareil, encore des Gold Glove et des titres de champion. Michael Young qui aura la meilleure moyenne à la batte. Donc, ils ont un jeu très spectaculaire basé sur l'attaque, parce que du côté du pitching, on n'en a pas encore parlé, mais c'est... C'est pas trop ça, mais effectivement, c'est quand même peut-être. Il est des années dorées, pas beaucoup, mais qui viendront quand même après. Mais effectivement, on le sait quand on regarde un petit peu l'historique, que cette époque-là, avec les Michael Young, les Soriano, les Teixeira, c'est vraiment un peu les Golden Boys du Texas. Mais il n'y aura pas de résultat collectif avant un grand moment. C'est l'éternel problème de cette franchise, finalement.
C'est ça. Et puis on peut aussi souligner, parce qu'il y a eu beaucoup de turnover hein, dans ces équipes des Rangers autour justement de ce jeune corps. Il y a quand même beaucoup de turnover. On pourra dire que en 2006, par exemple, il y a l'arrivée de Nelson Cruz, qui à l'époque est un jeune joueur, mais qui est toujours actif de nos jours en 2023. Il y a également un joueur comme Carlos Lee, par exemple, qui reste pas un excellent joueur, mais que moi je me rappelle puisqu'il a fini sa carrière du côté de Houston. Il y a également Sammy Sosa qui va faire un petit passage par les Rangers. Et on peut même parler de la star du Québec, Éric Gagné, qui signe donc un contrat avec ces Rangers. Donc il y a pas mal de turnover, Marion, ce qui explique peut-être aussi pourquoi à chaque fois cette franchise n'arrive pas peut-être à accrocher les playoffs, quoi.
Ouais, c'est ça. Ils ont leur base et tout autour, donc leur base de jeunes joueurs qui ont été formés au club. Mais voilà, autour, ça bouge beaucoup. Et c'est un petit peu ça qui leur manque. Alors, j'ai envie de mettre le tournant. Pour moi, c'est 2009, le tournant pour enfin les succès collectifs. En 2009, c'est le retour du catcheur Ivan Rodriguez, qui avait déjà joué chez les Rangers. Et il revient, il était parti aux Astros et revient, donc il reste dans le Texas. Hein. Mais il retrouve cette équipe des Rangers en 2009.
Et... 10 ans après, à peu près, puisque il était de l'équipe qui avait fait les premières participations en playoff. Et il était de celle qui s'était fait sweeper par deux fois par les Yankees.
Et je pense que c'est peut-être lui, finalement, qui manquait, cet ancien qui avait, comme tu dis, connu les premiers playoffs, qui va finalement... représenter un petit peu ce qui manquait certainement vraiment le cœur, même si Soriano était le meilleur joueur, Michael Young aussi était les meilleurs sur le terrain. Je pense qu'Ivan Rodriguez a joué ce rôle de détonateur et de lien entre tous ces joueurs et sa présence va entraîner enfin des résultats collectifs.
Et puis avant de passer sur le meilleur moment de la franchise des Rangers, on peut aussi parler par exemple de l'année 2008 avec les débuts d'un joueur qui va sans doute marquer la franchise, un certain Josh Hamilton, Marion, qui est à l'époque, on peut dire, dit comme le sauveur peut-être de cette franchise des Rangers. On parle de lui comme capable de frapper avec la moyenne, de frapper en puissance. Voilà, mais après on sait que Josh Hamilton c'est quand même un énorme what if pour cette franchise des Rangers et aussi pour sa carrière à lui, parce qu'il avait tellement de potentiel qu'on se dit qu'est-ce que ça aurait pu être, quoi.
Ouais, c'est ça, il s'est brûlé les ailes très très vite, Josh Hamilton, mais tu l'as dit, ça représentait effectivement, il arrive en 2008, donc même encore un an avant le retour d'Ivan Rodriguez, donc finalement on se dit est-ce que c'est lui finalement qui va permettre à cette équipe de décoller. Josh Hamilton, il fait parler de lui au home run derby, au Yankee Stadium en 2008. Je crois qu'il frappe 28 home runs. C'est resté longtemps le record avant les performances de Guerrero et compagnie ces dernières saisons. Mais il était vraiment ultra spectaculaire. Et c'est vrai que c'était, ça devait être lui un petit peu l'élu des Rangers.
C'est ça.
Et sa carrière, malheureusement, il va connaître les World Series, mais finalement, il va se brûler très très vite et ce sera une fin de carrière ensuite bien bien triste pour Hamilton.
C'est ça. Et puis on peut aussi, pour faire un peu la transition entre ces deux périodes, j'ai envie de dire d'entre deux, en parlant également d'un joueur qui a connu une très longue carrière, je pense à Ian Kinsler, qui est lui aussi sorti de la formation des Rangers, et lui aussi va connaître une superbe carrière et il va être aussi au cœur justement de ces futures années dorées, j'ai envie de dire, de ces Rangers.
Ouais, petit à petit, il faut ajouter des pièces, ça vient tout doucement, mais ouais, ça, ce sont des joueurs iconiques, il y en a pas énormément, mais tu l'as parfaitement, Kinsler, Hamilton, Rodriguez, c'est vraiment les joueurs auxquels on pense quand on pense à cette franchise.
Et donc, on arrive justement à ces belles années. Entre-temps, j'ai envie de dire, en coulisses, ça ne se passe pas hyper bien pour nos amis des Rangers, notamment de leur propriétaire de l'époque, qui connaîtra de gros, gros problèmes financiers. Mais on l'a dit, Marion, en citant tous ces jeunes joueurs qui étaient en train d'arriver, on sent que du côté de la direction et du sportif, ça travaille super bien et que c'est en train de payer. On sent enfin que les Rangers vont dans le bon sens, si bien qu'après deux saisons terminées à la deuxième place de sa division, les espoirs sont énormes du côté du Texas. On en a parlé ces deux saisons. Et c'est à ce moment-là qu'en 2010, le président, la légende Nolan Ryan, qui est donc revenu dans la franchise et qui a pris un rôle d'exécutif, déclare sur ESPN: nous avons une équipe extrêmement compétitive et si on ne gagne pas la division, je serai très déçu. Marion, pour une fois, les Rangers ne vont pas décevoir et vont même aller au-delà des espérances de leur président et de leurs supporters.
Effectivement, ils n'ont pas voulu décevoir leur légende. Ça aurait été quand même un petit peu too much là, à force. Donc, cette année 2010 marque le retour en play-off de l'équipe. Donc, ils remportent le titre d'American League West, donc premier play-off en 2010, depuis ceux de 1999. Hein, donc, il y a toute une génération de joueurs qui est passée et qui a manqué. Hein,
Les Soriano.
Voilà, exactement. C'est pas pour eux, ça, c'est pour la nouvelle génération. Cette année 2010, donc portée, on a beaucoup parlé des joueurs offensifs, mais dans le pitching, il y a un joueur qui est extrêmement important aussi, c'est Cliff Lee.
Et je rajouterais aussi, si je peux me permettre, désolé, de CJ Wilson aussi également, qui est également l'une des figures de cette équipe et de cette franchise, notamment à cette période-là, quoi.
Ouais, exactement. C'est qu'ils ont enfin des lanceurs qui tiennent la route, parce que c'est bien beau d'avoir des Josh Hamilton et tout ça qui peuvent mettre des home runs, mais voilà, il faut les lanceurs et ils les ont enfin trouvés. Et donc, 2010, les playoffs et une première qualification, un premier tour passé en playoffs.
Enfin, il
aura fallu attendre le match 5 en Division Series contre les Rays. Donc, octobre 2010, c'est la première qualification. Et ils se retrouvent au tour suivant contre leurs meilleurs ennemis, mais il y avait jusque-là pas vraiment eu de bataille, mais ils affrontent les Yankees en Championship Series.
Un esprit de vengeance après tout ce qui s'est passé à la fin des années 90, quoi.
Exactement. Et enfin, ils vont parvenir. Alors, les Yankees, champions l'année d'avant, en 2009, mais qui donc affrontent les Rangers en 2010. Et cette fois, les fameux Yankees échouent et ce sont les Rangers qui vont s'imposer. Donc un peu, ils renversent un peu la table et un peu l'histoire d'affrontement entre ces deux équipes. Ils l'emportent en 6 matchs et Josh Hamilton est nommé MVP de ces Championship Series. Et donc, les Rays, les Yankees éliminés, ce qui veut dire qu'on va se retrouver en World Series. Donc évidemment, une grande première pour cette équipe. Sauf que
malheureusement, pour nos amis fans de baseball et qui sont plutôt forts en maths, on sait que dans les années 2010, toutes les années perdent. De toute façon, ce n'était pas une bonne année pour tenter de gagner les World Series, quoi.
Non, exactement. Alors, ils ont fait ce qu'il fallait pour arriver en World Series. Mais bon, voilà, en 2010 appartenait, la décennie 2010 a appartenu longtemps à nos San Francisco Giants. Et là, les Rangers, ils existent pas vraiment dans ces World Series. Ils sont battus 4 matchs à 1. Il n'y a pas grand-chose, malheureusement, à retenir pour eux, si ce n'est donc une expérience qui va leur servir quand même pour les mois qui vont suivre. Mais voilà, c'est un peu une belle aventure qui se termine un petit peu mal. On parlait des récompenses individuelles, Josh Hamilton, Guerrero, il y a le jeune closer Neftali Félix, qui est élu rookie de l'année en 2010. Donc, c'est ce qu'on a dit, c'était une équipe assez intéressante. Josh Hamilton, MVP aussi, c'est sur cette année 2010. Il récupère 22 premières places sur 28. Donc, preuve de vraiment sa domination, en tout cas, la mainmise sa mainmise individuelle sur cette American League et quand même, récompense collective. Donc, ces premières World Series vont passer très, très vite. Les prochaines, les suivantes, vont durer un petit peu plus longtemps. Mais
ils vont connaître le même sort.
Voilà, le même sort. Donc, ils surfent un petit peu sur cette réussite. Ils enchaînent sur 2011 avec quand même un gros changement. C'est la signature d'Adrian Beltré qui arrive à l'hiver 2010. Ouais. Exactement, ça va encore apporter une pièce supplémentaire. Ils alignent au moins 5 ou 6 joueurs All-Star Game, je crois, en juillet 2011. Hein. C'est vraiment une très grande
force individuelle
et collective. Là, je pense qu'on est sur l'apogée, sur le top de ces Rangers, qui vont décrocher encore un titre de champion d'American League West. 96 victoires, c'est le record de la franchise.
Toujours à l'heure actuelle,
oui. Oui, exactement. On a un Michael Young qui finit à 338 de moyenne. Très, très bon. Et le fameux pitching dont on disait qu'il était très défaillant jusque-là, ils ont leurs cinq starters principaux qui ont 13 victoires ou plus. Mm-hmm. C'est assez impressionnant sur l'année. Hein. 5 starters au moins 13 victoires, c'est vraiment très impressionnant. Et tout cet ensemble fait qu'en plus, ils attirent les foules. Ils battent leur record d'affluence sur cette année 2011 dans leur stade. Donc vraiment, on a l'impression que tout est en place. On se dit, l'année dernière, ils sont passés à côté de leur World Series.
La découverte, c'était des petits rookies.
Et voilà,
c'est l'heure de la confirmation, on a envie de dire. Et puis, on voit des noms que l'on connaît dans ce roster. Il y a Elvis Andrus, par exemple. On a dit Nelson Cruz qui est toujours là. T'as Ian Kinsler, t'as Mitch Moreland par exemple, t'as Mike Napoli, enfin que des joueurs, des grands joueurs, pas des superstars de la MLB, mais des grands et des bons joueurs de la ligue. Et c'est pour ça aussi que j'ai envie de dire cette équipe est aussi bonne. Il y a aussi Adrian Beltré bien sûr qui est le visage de la franchise et qui va l'être jusqu'à la fin de sa carrière. Mais voilà, j'ai envie de dire c'est un peu différent de ce qu'il y a pu avoir par le passé avec cette équipe des Rangers, c'est-à-dire il n'y a pas d'immenses stars comme a pu avoir Nolan Ryan ou Alex Rodriguez. Là, c'est plutôt une ribambelle de joueurs très très solides et très costauds de MLB, quoi.
Exactement, c'est vraiment un super ensemble. Manager, on n'en a pas parlé, mais c'est Ron Washington qui est arrivé aux Rangers, et c'est lui le coach pendant cette période dorée qui vraiment enfin arrive à faire cette alchimie collective, cette rotation qui fonctionne super bien. Et donc, ils arrivent en playoff, évidemment, nos Rangers. Alors, signe du destin, ils battent de nouveau les Rays en Division Series, donc, comme l'année précédente. Donc, on se dit que c'est plutôt pas mal. C'est bien. Ils enchaînent après. Alors, ils n'affrontent pas les Yankees cette fois-ci. Ce sera les Tigers qui vont rencontrer en Championship Series. Et à l'occasion de ces Championship Series, il y a un petit événement quand même. Notre ami Nelson Cruz, tu en as parlé, qui rentre dans les livres de l'histoire, puisqu'il va signer un walk-off grand slam, mm-hmm. en fait, en post-season, lors du match 2, walk-off grand slam, et c'était le premier de l'histoire. Voilà, ça fait un petit...
Ouais, c'est un petit...
Une petite note pour lui. Et ils vont s'imposer, alors grâce à un Cruz MVP de cette Championship Series, ils vont donc remporter en 6 matchs ces Championship Series, et mm-hmm. donc décrocher leur place, encore une fois, pour la deuxième année consécutive, pour les World Series, et avec les Cardinals qui se présentent face à eux.
C'est ça. Et c'est déjà un exploit en soi, hein, pour une équipe de faire un back-to-back mm-hmm. World
oui,
Series.
Il y en a pas eu beaucoup,
c'est
ouais.
ça. Mais on se dit que là, cette équipe a l'air peut-être un peu mieux armée que celle de 2010, tu l'as dit. Hein. Celle de 2010 était peut-être considérée un peu comme des rookies qui venaient de découvrir le haut niveau. Mais là, on sent que cette équipe a une toute autre allure, et ça se voit aussi dans le déroulé de ces World Series. C'est des matchs très accrochés. Le match 1, ce sera 3-2 pour les Cardinals. Le match 2, ça sera 2-1 pour les Rangers. Il y a le match 3 qu'on peut mettre de côté, qui a été une explosion offensive avec une victoire 16-7 de nos amis de Saint-Louis. Mais après, nos amis des Rangers, ils se présentent, ils gagnent le Game 4 et le Game 5, et sont au Game 6. Ils arrivent avec toute leur chance pour remporter leur World Series. Et là, c'est un match 6 complètement fou. Marion, c'est surtout sans doute le tournant de ces World Series, quoi.
Le tournant de ces World Series, et puis finalement, ça sera le tournant, j'allais dire, de l'histoire des Rangers, puisqu'ils n'attendront
aussi,
plus
ouais.
Voilà, de la franchise. Tu l'as dit, des matchs extrêmement serrés. Hein. Le match 2, tu as dit 2-1, et en fait, les Rangers, ils marquent leurs 2 points en 9e manche. Donc, preuve qu'ils étaient allés arracher la victoire comme ça. Et donc, ils se présentent dans ce fameux match 6 en tant que favoris. Donc, quand même, le match 6 et le match 7 pour finir l'affaire. Donc, on se dit, bon. C'est ouais. pas mal, ils sont quand même bien. Ils vont être très bien pendant le match, au point qu'ils arrivent avec 2 points d'avance dans la 9e manche. Saint-Louis est vraiment au pied du mur. Hein. Ils ont 2 points de retard en fin de 9e manche. Et ben là, ça sera la magie d'un certain David Freeze. Hein. Voilà, c'est World Series 2011. Cette fin de World Series est absolument incroyable.
Ah bah, c'est vraiment des scénarios exceptionnels. Et puis David Freeze qui rentre dans la légende des Cardinals, c'est dans la légende du baseball.
Ouais, exactement. Donc, nos Rangers qui vont laisser échapper 2 points en 9e manche. Bon, on se dit, allez, c'est pas grave, mais bon, ils se remotivent pour en 10e manche repartir de l'avant et reprendre 2 points d'avance. Bah, tout ça pour perdre de nouveau ces 2 points d'avance en 10e manche. Et ce sont finalement les Cardinals qui s'imposent en 11 manches dans ce match 6. Ils s'imposent 19. Donc vraiment un pur choke quand même de nos amis des Rangers, hein, qui ont 2 fois l'occasion de terminer ces World Series. Et donc on se dirige vers un match 7, et on le sait, un match 7, il n'y a pas de favori, pas d'outsider, hein, c'est toujours un peu la loterie. Et au match 7, il n'y a pas de match, exactement. Les Rangers, certainement quand même bien touchés, bien affectés par ce qui s'était passé sur le match 6, vont s'incliner sur ce match 7. Et donc, deuxième défaite consécutive en World Series. Tu as parlé de franchises qu'on considère un peu comme les plus grands losers de l'histoire du baseball. C'est vrai que ces World Series 2011, on a parlé de ce scénario complètement fou. c'est considéré comme l'un des plus grands chocs de l'histoire de la MLB et peut-être même du sport américain, tellement le scénario de ce match-ci était fou
et semblait plié.
Voilà, c'est ça, c'était plié. On sent, et on a parlé de point de bascule, c'est vraiment ça, on a l'impression que bah, voilà, quelque chose s'est malheureusement cassé chez eux, puisque depuis, on ne les a pas revus à ce niveau-là, bien entendu.
C'est ça, tu l'as dit, hein, j'ai envie de dire comme ce match 6, hein, j'ai dit que c'était un tournant pour leur World Series, mais tu as raison, hein, c'est un tournant dans cette franchise. Surtout que bah, le goût est très très amer, hein, du côté d'Arlington après cette défaite 4-3 face aux Cardinals. Quand on arrive si près du Graal, c'est sûr que c'est difficile de se remettre au charbon, j'ai envie de dire. Surtout que lors de l'intersaison, hein, de cette saison 2011, entre la saison 2011 et 2012, l'ennemi, les Angels, vont signer ni plus ni moins que l'ace des Rangers, CJ Wilson, tout en s'offrant les services d'un certain Albert Pujol qui a fait bien des misères à nos amis des Rangers précédemment, de quoi justement menacer un peu l'hégémonie texane. Par contre, en revanche, Marion, ça va te faire plaisir, toi qui aimes bien le baseball nippon, la franchise va aller chercher une petite pépite japonaise dont certains ont déjà dû entendre parler, un certain Yu Darvish qui va devenir un peu le nouveau visage de la franchise, notamment sur le monticule. Et pour la première fois de l'histoire de cette franchise, hein, l'équipe va se qualifier pour la troisième fois de suite consécutivement en post-season, mais cette fois pas de World Series, Marion, puisque l'équipe se fera sortir dès la wild card. Est-ce qu'on peut dire que ça va être le début d'une période pleine de regrets, j'ai envie de dire?
Ouais, exactement. C'est un peu le début de la fin. On a dit que 2011, c'était un peu l'apogée et que tout était parti un petit peu de travers. Mais non, c'est vrai, tu as raison. Il y a cette saison 2012 dans la foulée de l'arrivée de Yu Darvish, hein, qui termine sa première saison MLB. On sait que c'est très difficile pour les lanceurs japonais, généralement, cette fameuse première saison, la transition.
La transition, ouais.
Il termine avec 16 victoires, hein, Yu Darvish, sur cette année 2012. Et il porte encore... cette franchise, ils ont 8 joueurs au All-Star Game en 2012, les Rangers, avec donc Yu Darvish, hein, qui est sélectionné tout de suite. On a parlé des Napoli, des Beltré, des Andrus, des Kinsler, Hamilton, évidemment. Donc, allez, il y a encore vraiment sur cette saison 2012, malgré l'énorme choc de cette défaite des World Series quelques mois plus tôt, il y a encore une dynamique très, très positive. Mais ça va s'arrêter en match de wild card, donc contre les Orioles. Et là, si 2011 était l'apogée, on va dire, au niveau résultat sportif, c'est 2012, finalement, cette dernière saison de play-off avant un bon moment. Et là, ça va être le début un petit peu de… Pas le début de la fin, il y a plus de 90 victoires la saison suivante, mais il n'y aura pas de play-off. Et l'histoire des pas de play-off pour les Rangers, elle va durer de nouveau longtemps, puisque… La vraie chute, c'est 2014. Ils décrochent 67 victoires. Ils sont derniers de l'American League West. Hein. Donc, ça veut dire qu'en deux ans,
ils ont inversé leur bilan.
Ouais, exactement. C'est un bilan inversé, malgré encore de très bons joueurs. Quoi.
C'est ça, et on va faire vite justement sur ces petites années de transition. C'est également la fin de Ron Washington. Le manager légendaire de cette franchise, qui est celui qui a gagné le plus avec cette équipe. Il est à 664 victoires avec cette franchise de Texas Rangers. Il est donc remercié à la fin, avant la fin de la saison. Il y a un nouvel homme vient aux manettes de cette équipe à l'orée de la saison 2015. C'est Jeff Bannister qui vient du coup dans cette franchise. Et tu l'as dit, à ce moment-là, alors qu'on pensait que la franchise était dans le creux de la vague, il y a, je sais pas, une sorte de petit rebond et l'équipe se retrouve en post-season, tout simplement.
Ouais, c'est vrai, 2015, on ne s'y attendait pas forcément, vu le résultat catastrophique de l'année d'avant. Alors 2015, il y a les playoffs grâce à ce type de division à 88 victoires. Alors c'est pas énormément, mais ça suffisait à l'époque. On sait maintenant ce qu'est devenu l'American League West, n'est-ce pas, Martin? 88 victoires, ça ne serait pas suffisant aujourd'hui pour aller chercher une qualification.
Ah non, loin de là, ouais.
En playoffs, bien sûr, mais donc là, ça passe. Et alors si les World Series 2011 sont restés dans l'histoire pour le rebondissement, les playoffs 2015, les Division Series de 2015, le Game 5 des Division Series de 2015 face aux Blue Jays est aussi, alors pas dans la légende à ce niveau-là, non. Mais il y a une image très très
légendaire,
très très légendaire et ils sont encore du mauvais côté de l'histoire, hein, nos fameux Rangers, parce que c'est ce match 5 à Toronto extrêmement disputé. et avec ce fameux home run de José Bautista, hein, des Blue Jays, alors que le match, il y a eu plein de rebondissements, il y a eu, je crois, une bagarre avant, enfin, c'était un petit peu la folie dans ce match, et ce home run de Bautista qui fait
le bat flip,
plus beaux bat flip de l'histoire de la MLB, je pense. Donc effectivement, il y a ces playoffs en 2015, il y a des playoffs finalement en 2016, on disait que ça allait pas, mais finalement ça allait pas si mal que ça, mais il y aura encore en 2016 une défaite face aux Blue Jays en Division Series, donc il y a playoffs, mais ça va pas plus loin, et il y a après un vrai renouvellement de joueurs, hein. Il y a les historiques des World Series vont partir, et il y a l'arrivée de toute une pelletée de joueurs, mais qui va pas réussir à atteindre les niveaux précédents, malheureusement.
C'est ça, et puis comme dans beaucoup de franchises dans ces cas-là, il y a quand même une envolée des talents qui vont se faire, hein. Yu Darvish qui va partir, Andrews qui va partir, Ian Kinsler qui va partir, tout ça, Nelson Cruz notamment, donc voilà, ça fait beaucoup pour cette franchise des Rangers. Pour revenir un peu sur ce sujet de Toronto Blue Jays et des Texas Rangers, c'est fou de se dire qu'à chaque fois les Rangers ne parviennent pas à franchir ce cap. On peut dire que dans les années 90 c'était les Yankees qui les empêchent d'aller plus loin, deux années consécutives, et là deux années consécutivement c'est les Blue Jays. On a envie de dire qu'ils sont un peu maudits, hein, nos amis des Rangers, parce que quand ils arrivent dans des périodes un peu fastes ou un peu avec des bonnes réussites, ils tombent sur des équipes encore meilleures, et c'est peut-être ça qui leur manque, c'est ce fait de pouvoir se dépasser dans les grands moments, comme ont pu faire par exemple de nos jours par exemple les Nationals en 2019 par exemple.
Du coup, oui, il va toujours manquer un petit quelque chose, hein, malgré, on a encore des on disait, il y a un vrai changement d'effectif, mais on a encore des joueurs solides, mais ils tombent toujours sur un os. Ça a été les Yankees pendant un moment, après il y a eu les défaites en World Series, après ça sera les Blue Jays. Ils n'arrivent pas à s'imposer, enfin, à de nouveau, en fait, prendre le dessus collectivement. On a pourtant des Cole Hamels qui a un beau nom. Il y a le fameux Joey Gallo, hein, qui arrive avec sa pelletée de home run, mais il tombe toujours sur un os, et le manager dont tu parlais, Jeff Bannister, va en faire les frais en 2018, remplacé. Et là, ouais, 2007, 2018, 2019, 2020, c'est vraiment des années très difficiles. Hein, c'est des gros contrats, du monde pourtant dans le stade, et ça marche pas. 2020, on arrive, alors la saison tronquée, on le sait, mais c'est le pire bilan d'American League, hein, quand même, les Texas Rangers. 2020 qui marque un nouveau tournant dans l'histoire du club, avec ses débuts dans ce fameux Globe Life Field, cet énorme stade au toit rétractable, hein, qui a été construit hyper vite, hein, qui a été construit en 3 ans, et qui, comme tu l'as dit, enfin un vrai stade de grande compétition, et qui va accueillir, alors non pas une victoire des Rangers en World Series, hein, mais la victoire des Dodgers, puisqu'on rappelle donc que les Dodgers n'ont pas remporté leur titre à la maison, mais dans ce stade, dans les conditions qu'on connaît. Alors, il y avait du public, hein, pour ces World Series.
C'était le Covid avec les mesures sanitaires en place. Du côté du Texas, qui s'était assoupli très, très rapidement, le stade était loin d'être plein, hein, mais il y avait un peu de public pour voir le titre des Dodgers, quoi.
Exactement, ça sera c'est le premier fait d'armes de ce stade, et malheureusement c'est pas pour
pour l'instant c'est le seul.
Pour l'instant c'est le seul, c'est pas. Alors il y a eu un autre fait d'armes finalement dans ce stade, toujours pas pour les Rangers, mais c'est aussi dans ce stade-là que l'ami Aaron Judge l'année dernière a frappé son 62e home run, si je ne m'abuse. Donc il y a quand même eu des beaux. Je crois que c'est assez bien chez les Rangers, donc il y a eu de grands moments, mais jamais du côté de l'équipe locale.
Mais Marion, on peut se dire que après ces années de tanking, réel tanking, comme les équipes du Texas savent si bien faire, on est en train de voir un peu le bout du tunnel, hein, pour cette franchise des Rangers. Tu l'as dit, ce stade, il faut peut-être penser à le rembourser. Et donc, le propriétaire de la franchise a décidé de sortir le portefeuille et de frapper très très fort. On peut dire que l'argent a coulé à flot, hein, du côté des Rangers, et les stars commencent à s'amasser. Hein.
Exactement, le tanking ultime en 2021, ils ont plus de 100 défaites, hein, c'est pas mal. Et donc oui, finalement, on se dit bon, quand même, ça y est, on y va, on va dépenser un peu l'argent, tout l'argent qu'on a du côté du Texas. Donc ça va être avant la saison 2022, hein, l'hiver 2021-2022. Ils dépensent plus de 560 millions. Ça sera vraiment l'équipe qui va animer ce marché hivernal. Ouais. Ouais. Avec ces énormes signatures de Corey Seager et Marcus Semien, qui étaient deux shortstop parmi toute la pelletée, hein, shortstop ultra convoité. Et finalement, ils ont, un peu à la surprise générale, ils ont atterri au Texas. Donc Semien, qui est repassé en deuxième base, d'ailleurs, comme il avait joué à Toronto juste avant. Mais voilà, c'est vraiment les grosses manœuvres. Alors, ça n'a pas encore pris en 2022. Parce qu'il n'y a toujours pas eu de play-off. Il y a eu un petit, j'allais dire, Martin Perez, par exemple, le lanceur qui a été pas si mauvais et tout ça. Corey Seager, il a mis un peu de temps, mais il a finalement reçu une bonne saison. Marcus Semien, par contre, ça a été assez compliqué. Et ben, malgré tout ça, le coach en a fait les frais. Hein. Chris Woodward a été viré au mois d'août. Il n'a même pas terminé cette saison 2022. Mais voilà, c'est quand même la preuve, quand on sort le chiquet comme ça, qu'on a de nouvelles ambitions. Et pour cette année 2023,
bis repetita.
Bis repetita, effectivement, avec un certain lanceur qui va arriver de New York, hein, l'ami Jacob deGrom, qui arrive donc pour cette saison 2023 avec forcément un gros contrat. D'ailleurs, c'est du côté des lanceurs, hein, qu'on s'est affairé pour cette année 2023 chez les Rangers, hein, puisqu'on a Nathan Eovaldi aussi qui va débuter cette saison, Jake Odorizzi aussi qui va arriver. Donc voilà, on essaye de mettre les armes. En attendant, tu l'as dit, le tanking a permis de prendre quand même des hauts picks de draft et ils ont aussi été chercher des lanceurs ces dernières saisons avec les Vandy Boys du côté des Rangers. On va miser ces prochaines saisons sur les deux anciens lanceurs stars de la fac de Vanderbilt, hein, Leiter et Kumar Rocker, qui sont attendus dans les prochaines saisons. Mmh. Et voilà, donc Jacob deGrom est un peu pris en mentor ultime, hein, finalement, pour Leiter et Kumar, et pour porter enfin une nouvelle génération de Rangers au plus haut niveau.
Il y a également le jeune Josh Jung, en prospect assez intéressant, qui devrait pas tarder à arriver du côté des Rangers. C'est un joueur de troisième base assez prometteur. Donc le futur s'annonce plutôt brillant pour cette équipe des Rangers. Et pour chapeauter tout ça, Marion, on a décidé de, comme j'ai envie de dire un peu lors des périodes dorées des années 2010, on fait confiance à un entraîneur de j'ai envie de dire d'expérience, mm-hmm. qui a tout connu. Même l'équipe de France, un c'est certain dire. Bruce Bochy, c'est dire.
C'est dire, effectivement, voilà. Le précédent coach était quelqu'un de plus jeune et qui était dans le staff depuis longtemps, là, en 2023. C'est donc Bruce Bochy qui va faire son retour en MLB avec toute l'expérience qu'on lui connaît. Ça sera lui de redresser cette équipe. Alors ça signe malheureusement certainement la fin de sa collaboration avec l'équipe de France, mais on est quand même content de revoir Bochy, comme on a été content de revoir ton fameux manager des Astros qui a plutôt bien réussi. Hein. C'est presque la même génération, oui, finalement.
Je pense, ouais.
Donc voilà, un nom vraiment bien établi, une légende du coaching MLB pour relancer cette équipe qui affiche quand même, avant cette saison 2023, le septième plus gros payroll de MLB. Hein, septième, quand on sait les résultats qu'ils ont fait ces dernières saisons. Hein, ils se placent derrière les contenders que sont les Mets, les Yankees, les Phillies, les Dodgers, les Padres, hein, donc derrière des équipes qu'on attend évidemment parmi les favoris. Voilà, ils se placent tout en haut au niveau salaire. Donc, il va falloir quand même que ça paye. Voilà, c'est ça. Que ça paye un moment ou un autre. Et malheureusement pour eux, ils ont toujours le voisin texan qu'on dit chaque année qu'ils vont faiblir. Ils ne faiblissent pas. On l'a bien vu en 2022. Il y a maintenant les Mariners qui sont quand même revenus en play-off. Il y a les Angels avec Otani et Trout. Enfin, je veux dire, la concurrence pour eux est quand même rude. Il y a de nouvelles ambitions, mais il y a aussi grosse concurrence.
difficile de gagner une place en post-saison avec 88 victoires cette fois-ci pour nos amis des Rangers. Mais Marion, pour terminer, on peut dire que c'est plutôt brillant hein, du côté des Rangers ce futur, et ils espèrent enfin décrocher cet ultime trophée, ces World Series qu'il a fui depuis si longtemps, et enfin quitté, j'ai envie de dire, ce groupe triple glorieux des franchises qui n'ont toujours pas gagné les World Series.
Effectivement, les Vandy Boys là, sont très très attendus, et ça sera vraiment intéressant à suivre hein, là, ces prochains mois. Tu as parlé de Josh Young aussi, donc ouais, il y a quand même quelque chose d'intéressant. Et puis Jacob DeGrom, eh ben on va voir ce qu'il va nous proposer. Ce ne sera pas Nolan Ryan, mais ça fait quand même un super nom de nouveau au pitching. Il y a eu Darvish, il y a eu Ryan, il y a eu quand même quelques grandes figures. Et DeGrom s'inscrit un peu dans cette lignée.
Et bah, tu me fais une passe décisive toute trouvée, ma chère Marion, puisque avant de se quitter, vous commencez à en avoir l'habitude. On va passer à notre top 5 des joueurs qu'il faut absolument connaître pour briller dans les saloons du Texas. Alors, on rappelle évidemment que ce n'est pas un classement de valeur, mais c'est vraiment 5 noms qu'il faut absolument connaître sur cette franchise des Rangers. Alors, Marion, tu veux commencer par qui pour débuter un peu ce petit top 5 ?
On a parlé un peu de tous ces joueurs de ce fameux top 5 parce qu'il n'y en a quand même pas eu des masses, oui. Des grands joueurs dans l'équipe des Rangers. Donc j'avais quand même mis en premier Nolan Ryan, hein, on l'a dit, pour tout ce qu'il a quand même apporté à cette franchise. À noter, Nolan Ryan, on a parlé de ses records, hein, le record de strikeout évidemment, le record de no-hitter. Il a un record aussi qui est sympa, c'est qu'il a son maillot retiré dans 3 franchises.
C'est ça.
Les Astros, les Angels et donc bien évidemment les Rangers. Donc voilà, je pense que c'est quand même la figure, je sais pas si c'est la plus grande figure, en tout cas ça a été la première vraiment à faire connaître cette équipe. Et il est évident que quand il a passé la barre des 5000 cas sous le maillot des Rangers, donc c'est évidemment une des grandes figures de ce club.
Et puis ensuite, il a connu des succès divers en tant que gestionnaire,
oui,
peut-être
plus,
pas,
voilà, ouais.
Mais dirigeant de cette franchise des Rangers. Donc voilà, ça rajoute un peu plus sur le CV de Nolan Ryan comme une grande figure de ces Rangers. Et son fameux numéro 34. Ensuite, ma chère Marion, pour le numéro 4, à qui tu as pensé ?
On a parlé d'un lanceur, on va parler d'un receveur, donc le fameux Pudge Rodriguez, Ivan Rodriguez, donc qui a lui aussi son maillot retiré, le numéro 7 hein, par les Rangers, qui est tout en haut dans les livres des records, puisqu'il a joué donc de nombreuses saisons, il a fait 2 passages hein, avec Texas. Il est parmi les tout premiers en hit, en home run, en match. Ivan Rodriguez, c'est le Molina avant Molina, en fait, un petit peu, même si Molina n'a connu qu'un club. Mais je veux dire, dans sa stature, c'est un joueur 14 fois All-Star. Enfin, voilà, c'est vraiment une figure du club, une figure MLB aussi. Il est Hall of Fame hein, aussi.
Oui, depuis 2017.
Depuis 2017. Donc vraiment… voilà, il est aussi une grande figure de ce club.
Et le deuxième joueur des Rangers, on peut dire au Hall of Fame. Voilà donc pour Ivan Rodriguez, le receveur, un des meilleurs receveurs de tous les temps. Pour ce numéro 4, en numéro 3, ma chère Marion, je pense que tu vas continuer en beauté avec un autre maillot retiré, j'imagine.
Oui, en fait, j'ai choisi, c'est vrai, des maillots retirés, c'est un peu le choix facile, mais bon, voilà, on a dit, il n'y a pas eu
de Texas des Rangers, ça n'a pas eu beaucoup.
Voilà. Donc, je pense que le joueur-là, c'est peut-être le nom, finalement, le moins connu dans l'histoire, enfin, je veux dire, dans la MLB, le fameux Michael Young, hein, dont on a un petit peu parlé, qui est moins connu que Rodriguez, moins connu que Ryan, moins connu que ceux dont on parlera après. Michael Young, donc maillot retiré lui en 2019, un des rares joueurs à avoir dépassé les 300 d'average pendant lui, c'est 7 saisons consécutives. Hein. C'est vraiment un batteur, donc un infielder. Il a été d'ailleurs All-Star dans plusieures positions. Il a un peu joué toutes les positions d'infield hein, dans ses Rangers au fil des années. C'est un joueur extrêmement régulier, que ce soit en défense, que ce soit en attaque, hein, parce qu'il a eu, on l'a dit, le batting title lui aussi dans les années 2000. Il a été MVP du All-Star Game, donc il était capable un petit peu de d'étincelle. Mais vraiment, c'est le joueur parfait de ta franchise, oui. Un petit peu le mec stable sur qui tu peux compter pendant, pendant de nombreuses saisons. On parlait donc de Rodriguez qui est dans les livres de records, mais en fait, c'est Michael Young qui détient quasiment tous les records hein, de cette franchise. Et pourtant, comme je disais, son nom n'est pas très connu parce que bah, il n'y a jamais eu de titre, forcément. Mais voilà, et c'est lui qui a le record de la franchise en match, en hit, en points inscrits, enfin voilà, toutes les stats un petit peu offensives. C'est lui qui les a, le fameux Michael Young, le numéro 10, maillot retiré chez les Rangers.
Et il a passé 13 de ses 14 saisons du côté des Rangers. J'ai envie de dire, c'est un peu un joueur au profil de José Altuve de nos jours, c'est-à-dire une machine à coup sûr. Et ouais, tu sais qu'il sera toujours là, un capitaine de vestiaire. C'est aussi peut-être pour ça qu'il est un peu moins connu que ses compères. C'est que c'était peut-être une personne un peu plus introvertie, un peu moins médiatique, j'ai envie de dire, face à ses copains hyper puissants. Mais voilà, il quitte le monde du baseball avec une moyenne au bâton en carrière de tout pile. 30%. Donc voilà, c'est pour vous dire, le gars était hyper, hyper régulier. Donc Michael Young, donc, qui a porté le numéro 2 et le numéro 10 du côté de nos amis des Rangers pour ton numéro 3. On passe donc au numéro 2, ma chère Marion.
Eh bien, encore un joueur qui a franchi un milestone sous le maillot des Rangers, c'est Adrian Beltré. Lui, la fameuse barre des 3000 hits, c'était sous le maillot des Rangers. Adrian Beltré qui a donc son maillot retiré évidemment, numéro 29. Il a passé 8 saisons chez les Rangers avec des super stats à la Adrian Beltré. J'allais dire, hein, c'est quand même un joueur qui au total aura fait une carrière de plus de 20 ans. Lui aussi, hein, une machine à hit régulier, troisième base, donc qui a fait un petit peu décaler du coup Michael Young. C'est pour ça qu'il a un petit peu changé de position aussi. Donc cette barre, on le voit souvent dans les highlights de la MLB, la barre des 3000 hits, c'était sous le maillot des Rangers pour Beltré, avec des multiples Gold Gloves, une WAR en carrière qui est quasiment de 100, je crois. Enfin voilà.
93,5 pour les amateurs de stats.
Un gant sûr et une batte sûre et voilà, pareil, une régularité, une machine à hit, à home run aussi évidemment. Voilà, donc une c'est un petit peu voilà un petit peu j'allais dire le même profil finalement que Young, sauf qu'il est il est plus connu, Adrian Beltré,
un peu plus puissant, on a envie de dire que Young,
oui, bien sûr, un petit peu plus puissant,
une figure un peu plus médiatique. C'était un joueur ultra respecté et ultra adoré par ses coéquipiers mais également ses adversaires. Il y a pas mal de highlights où on le voit rigoler avec notamment Miguel Cabrera ou d'autres. Voilà, c'était un joueur, on va dire, un peu à la latino, c'est-à-dire un peu extravagante, mais dans le terme qui reste correct. Voilà, c'était un joueur étincelant sur le terrain en tant que personne et donc qui a pris sa retraite en 2018 avec les Rangers et qui a donc passé 8 saisons du côté des Rangers et est devenu une des figures de cette franchise. Et voilà, on va terminer donc par un dernier nom, Marion, un de ces 5 noms qu'il faut absolument connaître de cette franchise des Rangers.
Eh bien, Josh Hamilton, on en a aussi parlé, évidemment.
Malheureusement, le what if 2, le what if.
Hein. Ah ouais, ça c'est terrible, hein, l'ancien donc MVP Josh Hamilton. On l'a dit, une machine à home run aussi, celui qu'on considérait comme le joueur capable de porter les Rangers tout en haut. Qui a failli les porter tout en haut, mais malheureusement pour lui, ça s'est mal terminé. On sait qu'en plus, il y a eu beaucoup de blessures. Il y a eu aussi des controverses avec des contrôles
en produits dopage.
Ouais. Voilà, exactement. Donc la carrière de Josh Hamilton, comme son club finalement, c'est vraiment le climax des deux World Series. Après, il va partir donc à Anaheim. Pendant 2 saisons où ça va pas du tout bien se passer. Je veux dire voilà, ça va pas bien se passer du tout. Donc ces histoires de dopage et puis il va revenir en 2015 aux Rangers un petit peu pour faire un petit peu amende honorable hein, pour tenter finalement de relancer sa carrière. Ce ne sera pas une grande réussite, même si l'année 2015, ce n'est pas si mal que ça. Mais bon, on a parlé des années un petit peu compliquées des Rangers.
Des grosses blessures, oui.
Il y a des grosses blessures en fin de carrière. Et puis, voilà, il termine sa carrière, je crois, d'ailleurs, à cause d'une blessure. Hein, il me semble que c'est... Il n'arrive pas à revenir des blessures au genou, hein, essentiellement. Il n'arrive pas à revenir. Et c'est vraiment une fin de carrière. Enfin, même, c'est même pas que la fin, hein, parce que même, on l'a dit, à son départ aux Angels, finalement, dès 2012, c'est complètement la chute pour ce joueur. Je crois qu'il y a eu aussi quelques problèmes d'alcoolisme aussi, il me semble. Hein. Il a vraiment eu de gros problèmes aussi en dehors des terrains qui avaient forcément des répercussions sur ses performances sportives. Donc, ça a été une chute très, très rapide hein, pour celui qui aurait été MVP et qui a malheureusement disparu très vite du paysage MLB.
On va rappeler, pour terminer un peu le CV de Josh Hamilton, qu'il a quand même été sélectionné en première position de la draft 1999 par les Tampa Bay Devil Rays à l'époque. Il sera ensuite sélectionné par les Chicago Cubs dans la Rule 5 draft, donc c'est-à-dire quand un jeune passe suffisamment de temps en ligue mineure, il peut être sélectionné par une autre franchise à condition qu'il reste toute la saison dans le roster. Il sera ensuite récupéré par les Cincinnati Reds, qui sera ensuite tradé du côté des Rangers. Donc il a quand même une saison du côté des Reds, sa saison on va dire rookie, avant de commencer à devenir étincelant du côté des Rangers. Tu l'as dit, Marion, à partir de 2008, c'est l'explosion jusqu'en 2012, et à partir de 2012, c'est un peu la chute libre pour ce joueur et tous ces problèmes dont tu as parlé. Mais c'est évidemment un des joueurs qui aurait pu marquer le baseball et marquer sa franchise, et un des grands what if qui aurait pu avoir du côté de cette franchise des Rangers. Eh bien, voilà, ma chère Marion, merci à toi pour cette magnifique histoire de cette franchise consacrée aux Texas Rangers. Je souhaite également remercier tous nos auditeurs pour leur patience et pour leur fidélité à En toute franchise et The Strikeout. D'ailleurs, vous pouvez retrouver les 18 autres émissions sur notre site internet ou sur notre page Spotify. Sinon, rendez-vous sur notre Twitter pour toute l'actualité du baseball. Merci à Marion de nous avoir accompagnés dans ce voyage au cœur du Texas. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches. C'était Martin. Ciao. Bye bye.
Happened.